Boomerang autour d'un piano avec Anne Kefelec, tout en lumière ce matin. C'est parti. Une remarque, non pas sur le coup de maître de Stromae, une remarque sur notre métier. Parce qu'il ne faut pas connaître grand-chose au journalisme culturel pour penser qu'un moment de radio ou de télé, c'est improvisé. Ce n'est pas un secret pour quiconque l'exerce, l'a exercé, ou même un tout petit peu interrogé ce métier. Tout se construit, de l'éclat de rire jusqu'à l'émotion, tout jusqu'à la pensée, suivant des séquences, des accidents, des questionnements tour à tour ouverts ou fermés, incongrus ou rassurants, qu'on a imaginés bien avant. À chaque interview, si vous regardez de plus près, vous verrez des écueils qu'il est de notre métier de savoir contourner. C'est la question dont on connaît déjà la réponse, par exemple. C'est le discours de l'invité qui semble un peu usé. C'est le refrain mille fois chantonné. Comment on fait pour les éviter? Et pour ne pas s'entendre dire aussi la réponse à votre question, elle est dans mon livre, dans mon film ou dans ma chanson. Eh bien, on leur propose de faire ce qu'ils font de mieux et qui est l'essence de leur métier. On leur propose de jouer, de proposer un moment de création qui est bien plus riche, plus efficace et plus pertinent que toutes les questions. C'est par ces mises en scène que l'on produit de l'émotion, mais aussi du sens, parce qu'il n'est pas rare que l'artiste n'ait que ce moyen-là, ce détour par son art pour s'exprimer, avec un texte qui semble improvisé, mais qu'il a préparé, avec une tirade de poésie qui dit tout ce qu'il n'a pas dit, ou même avec une musique, vous connaissez la chanson, et peut-être même la citation si juste de Victor Hugo, la musique exprime ce qui ne peut pas s'exprimer avec des mots, et sur quoi il est impossible de se taire.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel langage parle mon invité d'aujourd'hui? C'est l'une de nos pianistes les plus lumineuses, grande interprète de Beethoven, de Mozart, mais aussi de Satie, Ravel ou Bach. On la retrouvera notamment fin janvier pour une série de concerts dans le cadre des Folles Journées à Nantes. Ce matin, assise devant son piano, elle est venue nous parler de mots, d'émotions et de doigté. Bonjour Anne Kefelec.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, quel langage est-ce que c'est la musique pour vous?
Alors, je viens d'une famille, comme vous savez, où les mots sont rois. J'ai été plongée là-dedans, dans l'amour de la littérature, des livres et les valeurs de l'esprit qui étaient reines dans la famille. Et la musique était partie intégrante aussi du quotidien, puisque c'était ça essentiellement qu'il y avait à la maison, un piano et des livres. Et le mot langage, évidemment, est davantage associé au mot. La musique transcende évidemment les mots. Pour moi, la musique, c'est vraiment ce qui va au-delà et qui dit l'indicible, en quelque sorte. Ce qui n'empêche que je suis tout le temps en train de tourner dans ma tête avec des mots pour essayer de m'exprimer à moi-même ce que représente la musique, ce que représente cette quête du plus profond de soi à travers la musique.
Il faut dire que votre père était écrivain et votre mère pianiste. Pourquoi la musique plutôt que la littérature chez vous ?
Je reste déchirée entre les deux, si je puis dire. Enfin, je ne sais pas si c'est un déchirement, mais en tous les cas, c'est une passion qui m'entraîne dans les deux directions. Je ne peux pas vivre sans lire. Et ça me nourrit, ça nourrit ma réflexion, ça nourrissait aussi d'ailleurs les grands compositeurs. Dans les tout derniers mois de sa vie, Schubert réclamait des livres à ses amis aussi. Donc c'est évidemment très réconfortant. À côté de cela, les mots ne peuvent pas tout dire, puisque sinon je pense qu'on n'aurait pas besoin de la musique. La musique dit de nous ce que nous n'arrivons pas à dire au plus profond, au plus intime. Et dans certains moments aussi, on voit bien, par exemple, je pense au moment des deuils, combien de fois on est devant la personne qui vient de subir ce chagrin terrible, ou pour soi-même, et on ne peut pas trouver les mots, et tout à coup, on entend des musiques qui vous comprennent, qui expriment ce qu'on ressent, et qui vous en délivrent d'une certaine façon, et qui à la fois sont consolants et libérateurs.
Pour autant, vous dites souvent, Anne Kefelec, que la musique, c'est l'art qui nous ressemble le plus. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Et notamment le piano aussi, je dirais, qui est l'instrument le plus humain qui soit, parce qu'il est imparfait et parce qu'il est très complexe. Il est composé d'une multitude de pièces qui sont autant de points de vulnérabilité, de fragilité. Et néanmoins, il est un orchestre, il donne le champ libre au compositeur de l'extrême grave à l'extrême aigu pour évoquer justement, non pas, Rimbaud dit « je » est un autre, mais là, avec le piano, « je » est une multitude d'autres.
Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe sans cesse, c'est peut-être en cela qu'il nous ressemble le plus ?
Oui, écoutez, et nous sommes tout de même de, comme disait Baudelaire, de confuses paroles et des rumeurs intérieures, nous en avons, nous en regorgeons. Et la musique, tout à coup, nous rassemble. Et elle va le plus loin possible dans le mystère de ce qu'on essaie de dire, comme j'essaie de le dire en ce moment avec des mots.
Et puis vous le dites souvent, la musique, c'est du temps.
Voilà, c'est vraiment une sculpture de temps et de silence et qui a partie liée avec la mémoire, naturellement, et aussi, pour moi, c'est très très puissant avec l'invisible. Et justement, c'est ce que je trouve une des forces de la musique par rapport au spectacle, entre guillemets. La force de la musique, par exemple, d'un récital de piano. C'est une cérémonie secrète, ça n'est pas un spectacle. Il n'y a pas, l'œil n'est quasiment pas sollicité, ou ne doit pas l'être. Et je pense qu'il y a là une source de liberté extraordinaire, et pour l'interprète, et pour celui qui écoute.
Et alors, qu'est-ce que vous avez l'impression de saisir, d'atteindre, même fugacement, quand vous jouez du piano, Anne Kefelek?
C'est très étrange, c'est ce qui se passe dans le fait d'être écouté aussi. Le public a vraiment une interaction fabuleuse dans sa présence. Le simple fait qu'il y ait ces humains là autour de nous, il y a comme une interaction secrète des âmes qui s'agrègent et qui à la fois sont complètement individuelles et secrètes et néanmoins unies par une forme de fraternité, et tout à coup, il peut y avoir des moments de grâce qui sont donnés par ce partage, par cette communion.
C'est ce que j'allais vous dire, quelque chose de l'ordre du sacré, quelque chose de l'ordre du divin, presque.
Et je pense en effet que la musique exprime quelque chose qui nous dépasse, et que ce quelque chose qui nous dépasse est en même temps nous aussi.
Quand, pour la première fois, en avez-vous fait l'expérience de ce sentiment ?
C'est difficile à dater, mais je me rappelle en tout cas un moment très fort de ma vie de toute jeune musicienne à 20 ans, lorsque j'avais joué dans le cadre d'un concours international. Pourtant, je n'aimais pas les concours dans l'idée de la compétition en art, qui est une aberration. Mais néanmoins, j'avais envie de jouer ce programme. Et je me souviens que le jour où je devais jouer, notamment Jean-Sébastien Bach, Mozart, Schubert, le matin même de ce qu'on m'en dit, l'épreuve, dans les coulisses, j'avais l'impression d'être attirée vers le piano irrésistiblement, et je me suis dit, il ne faut pas que tu cours. Tiens-toi.
Anne, il ne faut pas que tu cours.
Résiste.
Alors prouve que tu existes.
Et puis voilà, c'est ça. Et après, en effet, à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être en parfaite adéquation avec moi-même et avec la musique et avec les personnes qui écoutaient. Et quand se passent ces moments-là, on décolle véritablement. Et c'est vrai que ce sont des cadeaux merveilleux.
Je vous propose qu'on décolle ensemble avec Handel, dont vous avez choisi de nous interpréter un menuet ce matin. Pourquoi lui et pourquoi ce menuet ?
Ce menuet, pour moi, c'est un bijou. C'est une transcription d'un grand pianiste allemand, Wilhelm Kempff, que j'ai eu d'ailleurs la chance de rencontrer au cours de ma vie de pianiste aussi, et même de jouer pour lui. Et c'est comme un vitrail. Il y a une dimension contemplative dans ce menuet. Et je l'ai joué, figurez-vous, dans le cadre d'une prison, et les réactions des détenus à cette écoute étaient véritablement bouleversantes. Je vous en parlerai après.
Thank you.
Anne Kefelec ce matin dans Boomerang au piano avec ce menuet en sol mineur de Handel. C'est vrai que c'est bouleversant. Qu'est-ce qu'on touche quand on joue ce morceau et quand on l'écoute?
Il parle de lui-même. Il y a une pureté, une limpidité, une lumière dans cette pièce qui me semble sont d'emblée perceptibles. Un peu comme la beauté d'un coucher de soleil, la beauté d'une fleur, enfin de ce qui saute aux yeux, comme on dit, paraît une sorte d'évidence absolue de pureté et de beauté. Et justement, j'évoquais la prison de Nantes et j'ai joué cette pièce dans ce cadre qui, en fait, évidemment, au départ, est plutôt laideur. Et les réactions de détenus après posant des questions aux musiciens était vraiment donner d'une certaine façon à ce moment-là un sens à mon travail. C'est-à-dire, un d'entre eux se lève et dit d'abord, pourquoi est-ce que les gestes des musiciens jouant de leur instrument, pourquoi est-ce qu'ils sont si beaux, ces gestes? Alors déjà, c'est une question qui vous cueille. Un autre dit, est-ce que quand vous jouez, vous mettez vos convictions et tout ce à quoi vous croyez? Une question à la Augustin, un peu. Et un autre m'a dit ensuite, alors ça, c'était pour moi le sommet de l'émotion. Vous vous rendez compte, si j'étais pas venue en prison, j'aurais pas connu la musique. Oh. Il était devenu fou des sonates de Beethoven en prison. Mais vraiment, ça pose des grandes questions aussi par rapport à l'éducation, du coup. Et puis, alors, il faut pas tomber dans l'angélisme, mais peut-être que ce monsieur serait de toute façon venu en prison, même s'il avait connu la musique plus tôt. Mais on ne sait pas. On ne sait pas par où la grâce peut entrer dans les vies.
Mais au regard de ces questions, il m'en vient une, ce petit, Anne Kefelec, que la belle, la bonne interprétation repose sur la manière dont l'œuvre, sur le moment, entre en écho avec la vie de l'interprète.
Ça, c'est très difficile de le dire avec précision. Certainement, confusément, souterrainement, oui, ça doit avoir un écho par rapport à ce que la vie vous a donné à vivre, toutes les expériences profondes, les expériences de l'amour, les expériences du deuil, les expériences du chagrin, et les rencontres aussi.
Mais si une partition ne vous parle pas, est-ce que vous pouvez la jouer?
Je pense que c'est plutôt je ne veux pas accuser la partition, c'est moi que je dois accuser. Si elle me parle pas, c'est pas ça. J'aime beaucoup la parole de Rilke face à une sculpture de Michel-Ange. Il dit qu'elle lui dit change ta vie. Et quand je me sens sèche face à une partition, je me dis qu'elle me dit ça, change quelque chose en toi, et pour m'accueillir et pour être essayer d'aller plus loin.
En tout cas, c'est intéressant parce qu'on en revient aux mots. L'art vous parle, c'est ce que vous nous dites. Les mots qui sont si importants dans votre famille, Anne Kefelec, vous avez grandi dans une famille à vous entendre assez réfractaire à la modernité,
oui.
À un point tel que vous dites parfois avoir grandi dans une grotte préhistorique.
Oui, à part qu'évidemment, dans les grottes préhistoriques, il n'y avait peut-être pas de livres et pas de piano quand même. Mais c'est vrai que mon père avait une grande méfiance vis-à-vis de la modernité, tout de même excessive. Néanmoins, il était écologiste avant l'heure, parce que c'était un grand, grand marcheur, et il allait régulièrement se retremper vraiment aux sources, évidemment, en Bretagne. Ce n'était pas un intellectuel vraiment uniquement enfermé dans ses recherches purement de l'esprit. Il avait un corps, mon père. Ça, c'était très, très, très net. Et chez nous aussi, l'importance, justement, du fait de se retremper dans la nature, ça faisait partie de l'éducation aussi.
Mais cette résistance à la modernité, est-ce qu'ils vous l'expliquaient, vos parents?
C'était leur valeur, c'était, je pense, la force de cette éducation, c'est qu'ils vivaient en rapport avec leurs idées, avec leurs convictions. Ils n'étaient pas en contradiction avec ça. Je reconnais que ma mère, quand elle a réussi au bout de quand même un certain nombre d'années à faire que mon père dise oui au frigidaire, là, c'était une grande victoire.
Mais diriez-vous qu'il a été difficile pour vous de vous accommoder au monde, à la modernité par la suite, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, dans ce monde d'immédiateté, dans ce monde hyper connecté, dans ce monde d'écran?
Je suis très contente de l'éducation que j'ai reçue en définitive, parce qu'il me semble que je suis armée justement pour résister à certaines sirènes et notamment au fait que justement cette dimension dont je vous parlais de l'invisible dans la musique, et je pense que je préserve beaucoup une forme de liberté intérieure grâce à cela.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser face aux sirènes, Anne Kefelec. Quelle place pour la musique? Quelle place pour le temps de la musique? Comment créer les conditions propices pour que la musique puisse être convenablement écoutée, convenablement reçue?
Il y a des efforts à faire, je reconnais, individuellement. Quand on dit la musique, je pense évidemment à la musique exigeante tout de même, qui peut demander qu'on fasse soi-même une démarche pour aller vers elle, ouvrir la porte. Mais il ne faut pas avoir peur de ce premier effort, ce premier pas. Quand on dit le premier pas qui coûte, en effet, c'est par exemple ce qui se passe à la fin de journée de Nantes. René Martin, l'organisateur, le capitaine de ce bateau, il a parié là-dessus, sur le désir profond et le besoin profond de ses semblables, de la beauté. Et étonnamment, le fait de nourrir cet appétit, ça n'est pas du gavage du tout. Au contraire, l'appétit vient en mangeant, et il y a une espèce d'immersion collective. Et là, plus de la moitié du public n'a jamais mis les pieds dans une salle de concert avant les traditionnelles.
Et plus de la moitié du public va découvrir alors peut-être Schubert, mis à l'honneur cette année par les Folles Journées de Nantes. Schubert que votre père, paraît-il, tenait pour un dieu.
Schubert et Mozart étaient en effet ses compositeurs préférés, mais comme des êtres humains habités par les étincelles divines.
savez, je la regarde en train de jouer ses notes de la sonate des 960 de Schubert et on est quelque part entre la reine des fées, l'héroïne de légende arthurienne et la prof de piano Belle Époque, sibylline et raffinée, le cheveu dame du lac, le regard joconde avec ses doigts en forme de baguette magique, tout en orange, tout en lumière. Ce matin, la pianiste Anne Kefelec, invitée de Boomerang pour parler de répertoire, de technique, mais aussi, je l'aimerais, de lumière et de paysage. Dans quel paysage avez-vous été élevée, Anne ?
Je suis très souvent la tête en l'air à regarder le ciel. Et ça, ça vient de la Bretagne où les cieux sont vivants en Bretagne. Ce n'est pas le ciel éternellement bleu. Tout de même, il faut bien reconnaître un peu l'accent du sud.
Et dans quelle mesure, je me demande, un paysage peut façonner une sensibilité ?
C'est très difficile de l'analyser, de trouver la part donc qu'il a pu jouer. Mais en effet, la fameuse métaphore de la mer, et avec Baudelaire, la musique souvent me prend comme une mer. Elle m'habite véritablement dans ma perception de la musique, parce que la musique me prend comme une mer aussi et m'emmène au large. Le piano, ça permet de vous embarquer. C'est un bateau, d'une certaine façon. Il y a une voile avec ce grand couvercle qui s'élève là.
Mais c'est vrai.
Et une invitation au voyage. Et je pense au bateau ivre et le piano ivre. Et puis, quelquefois, dans certaines œuvres, on peut se dire que ma quille éclate. Vous vous souvenez peut-être dans le bateau ivre, j'adore cette expression, ah, que ma quille éclate. Et là, dans la musique, ça permet cela. Et on plonge dans l'onde. Là, je vais encore citer Valérie, en rejaillir vivant. Et on plonge dans la musique et on en rejaillit vivant. Et ça, c'est vrai que cette extraordinaire sensation qu'on a quand on joue des œuvres qu'on aime, de plonger véritablement dans un élément qui est, en l'occurrence pour moi bretonne, serait l'élément marin, l'océan.
Mais votre piano est-il si souvent ivre, Anne Kefelec?
Peut-être qu'il faudrait qu'il le soit plus souvent, mais c'est difficile. Pour les personnes qui improvisent, probablement, et qu'elles se laissent peut-être plus emporter par leur propre ivresse, mais je peux me laisser contagionner par l'ivresse aussi des créateurs, parce que je pense que eux, ces grands génies, ont dû, quand ils concevaient leurs œuvres et qu'ils la couchaient sur le papier, ils devaient évidemment être possédés par cette ivresse.
Alors votre jeu, vous n'avez cessé de l'affiner, et notamment à Vienne, auprès d'un immense pianiste qui s'appelle Alfred Brendel. Quel interprète était-il ?
Justement, cet homme, je lui dois évidemment, je lui dois énormément. C'est comme un phare pour moi. Il y a des repères comme ça, il y a des rencontres. Et c'était un homme qui avait justement une extraordinaire alliance de liberté fondamentale, d'indépendance d'esprit, et il a tracé sa route en allant vers ce qui était son essentiel à lui, et il a travaillé à la fois avec ses oreilles et ensuite aussi, bien entendu, d'une grande sensibilité, donc à la fois le feu et la rigueur.
Et il disait cette phrase que vous nous avez dite tout à l'heure, je l'ai bien entendue, le pianiste doit être plusieurs.
Oui.
Comment est-ce que vous l'entendez, vous, cette phrase-là ?
Plusieurs, parce qu'il est un orchestre. Et c'est pour ça qu'il y a un Himalaya de chefs-d'œuvre composé pour le piano, parce que les compositeurs avaient tout été ouvert au piano. L'invention de cet instrument, c'est sensationnel, vraiment. Et bref, ça nous oblige, nous pianistes, dans la polyphonie, le fait d'avoir donc, dans les instruments monodiques, vous ne pouvez pas être plusieurs.
C'est ça.
Vous.
Puis jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez que deux mains, Anne.
Et oui, mais avec deux mains, vous pouvez jouer 10 sons différents. Et si il y a des fugues à 6 voix. Donc vous pouvez, et puis faire des tutti d'orchestre, donner la sensation, suggérer des cordes, des hautbois, des violoncelles, des flûtes, enfin, et nous recherchons ça tout le temps pour différencier les plans, parce qu'autrement ça, tout serait trop monochrome, enfin, ou pas assez différencié au point de vue de la polyphonie. Vous ne pouvez pas demander à un violoniste d'avoir un son de piano. Vous pouvez demander à un pianiste d'évoquer un son de violon ou de violoncelle.
Mais cela dit, je vous parlais de vos mains, et je les regarde, vos mains. Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial, les mains d'un pianiste ou d'une pianiste, Anne Kefelec ?
Alors ça m'amuse toujours quand on voit dans des romans un peu faciles, il avait des mains de pianiste.
Ah ouais ?
Mais c'est une formule qui ne veut rien dire.
C'est une façon de dire, si je parle sous votre contrôle, qu'on n'a pas des petits doigts boudinés, quoi.
Mais vous pouvez très bien avec des petits doigts boudinés.
Merci.
Ça peut être très bien pour le piano.
Et
ça
vous me faites
bien.
Ma journée.
quand vous regardez les différents pianistes, à quel point justement la morphologie des mains, elle est d'une infinie diversité. Ce qui est important, c'est l'ouverture entre le pouce et l'index. Chopin disait qu'il fallait que l'index soit au milieu de la main, en quelque sorte. Donc plus là c'est large, plus l'empan est ouvert, mieux c'est pour le piano. Mais hormis cela, vous voyez des mains très fines et d'autres qui, en effet, sont des mains de bûcheron. Moi, j'ai plutôt des mains de potier, très musclées, avec une bonne paume. Je pense que c'était un bon modèle. Mais après, quand vous regardez aussi les jazzmen, vous voyez bien à quel point, avec leurs mains, enfin, elles sont très différentes et elles sont même dans toutes sortes de tenues et de positions. Et ce qui compte, c'est le résultat.
Mais de quoi vos mains sont-elles capables? Vos mains de potier, Kefelec?
Écoutez, elles étaient capables de peut-être plus de choses quand j'avais 20 ans. Je me rends compte, quand j'ai réécouté certains enregistrements de pièces de haute virtuosité, là, d'abord, je n'aurais plus véritablement envie de ce genre d'exploits athlétiques et sportifs.
Vous n'avez pas la compète.
Mais...
Ouais.
Non, mais il y a une jouissance de la virtuosité. Il y a une jouissance de la maîtrise d'un texte très difficile et cette jonglerie qui existe pour les pianistes. Mais maintenant, ça n'est pas ce que je recherche en premier à travers le monde instrument, bien sûr, parce que c'est vers les œuvres que je vais. C'est pas vers la sensation purement enfin, physique et éclaboussante, étincelante de la virtuosité. En particulier dans la dernière sonate de Beethoven, opus 111, là j'ai eu la sensation, cette œuvre dont je rêvais de la jouer depuis des années, qu'il y aurait pour moi un accomplissement d'une sorte de quête. Et de fait, c'est ce qui s'est passé intérieurement. Il y a évidemment, énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de merveilleux enregistrements de cette sonate et de grands pianistes qui jouent cette œuvre. C'est un des grands classiques du répertoire de piano. Mais il faut se la mettre dans la peau, soi, voyez, pour vraiment se l'intégrer. Ça fait partie des cadeaux que peut faire, justement. Je me disais, au dernier moment de ma vie, si jamais je n'ai pas joué cette œuvre, je m'en voudrais et je serais frustrée au dernier degré. Tandis que là, au moins, j'ai l'impression d'avoir été une pièce manquante, si vous voulez, a été donnée là, une partie du puzzle a été complétée. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous jouez?
Mais justement, alors, notamment Beethoven, vous avez raison, ce n'est pas que l'esprit qui est concerné, et en particulier dans cette sonate, les dernières sonates d'ailleurs, organiquement, des pieds à la tête. À la fin, une fois qu'on arrive au bout de l'œuvre, on sent qu'on a été concerné complètement. Et j'ai même de la peine à me lever souvent à la fin du concert, tellement j'ai été prise, emportée, corps et âme, par cette musique. Kempf disait justement, notre ami Kempf disait, Beethoven, ça s'éprouve. Et j'aime cette parole, je trouve qu'en effet, ça s'éprouve. Cœur, corps, âme, tête, vraiment, il n'y a rien de soi qui soit à l'écart.
Vous nous avez préparé une surprise, paraît-il, Anne Kefelec. Vous ne m'avez rien dit, je sais juste que c'est un peu jazzy. Ce qui veut tout et rien dire.
Non, c'est vrai. Je ne sais pas ce que donnera la surprise pour vous et pour moi, parce que...
Thank you. Mais quelle est donc cette merveille, Anne Kiss Jarrett Kefelec?
C'est le premier rock de l'histoire de la musique, disait un de mes collègues hongrois, Zoltán Kocsis. En fait, ça se trouve dans, bel et bien dans la dernière sonate de Beethoven, le deuxième mouvement, et pour montrer d'une certaine façon que le fameux groove, n'est-ce pas, ça existe aussi chez Beethoven, ça existe chez Bach, ça existe dans... Il y a c'est dans une des variations du deuxième mouvement et dernier mouvement qui est un sommet de beauté et de résumé de la condition humaine, véritablement, cette sonate.
Je voudrais vous dire merci, Anne Kefelec, pour le groove, mais pour les mots aussi, pour la passion, pour la musique. Merci pour tous ces cadeaux. Je rappelle que vous serez en concert plusieurs fois dans le cadre des Folles Journées du 26 au 30 janvier à Nantes et le 27 février au Théâtre des Champs-Élysées. Merci aussi à Rémi Sistiaga et Mathias Aléon ce matin à la technique.